dans un premier temps un petit peu présenter voilà, le cadre dans lequel s'inscrit ce film. Et juste une petite, on en parlait entre nous là tout à l'heure, puisque cet après-midi vous allez voir aussi le très beau film de Guillaume Braque, qui est un documentaire. Et ce film, donc Une seconde mère, est une fiction. Et même si a priori, voilà, c'est deux films très différents, là ce qui est intéressant, c'est que la cinéaste prend le parti pris de la fiction, tout en, je pense que vous l'avez ressenti, on aura l'occasion d'en reparler, dressant quand même un portrait quasi documentaire d'un certain nombre d'éléments du Brésil. Donc voilà, c'est peut-être aussi la cohérence des choix qui vous sont proposés, en tout cas parmi ces deux films. Donc c'est un cinéma, vous l'avez ressenti je pense, qui s'inscrit dans un mouvement de cinéma social, hein, très, très clairement, Une seconde mère, et qui se propose d'explorer en particulier donc, les relations maternelles, évidemment, les relations aussi d'éducation, mais qui ne se contente pas, et c'est là tout l'intérêt de ce film, de les explorer, mais de les questionner, et en remettant en cause les conventions sociales, plus particulièrement ces conventions dans les relations à la fois de genre et de classe. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir, mais ça c'est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut avoir à l'esprit aussi, je pense, et le dire à vos élèves, si vous êtes amenés à travailler par la suite sur ce film, et même voilà, avant la projection, c'est un film réalisé par une femme, donc une cinéaste brésilienne, relativement jeune, puisqu'elle est née en 1964, et qui affirme, je vous dis ce qu'elle dit, parce que c'est quand même intéressant, « Le cinéma est un club d'hommes, et la règle, c'est que les femmes en sont exclues. » Alors évidemment, c'est vrai, ça a été vrai en France pendant très longtemps, et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, même si, voilà, il y a eu quand même quelques progrès qui ont été faits, mais comme en témoigne le collectif 50-50, on est loin du compte, mais il faut avoir en tête qu'au Brésil, c'est pire encore. C'est-à-dire être une cinéaste femme au Brésil, il n'y a quasiment aucune place qui n'est laissée, puisque les fortes pressions à la fois sociales et économiques façonnent les formes contemporaines et de féminité et de masculinité. Donc, c'est une femme donc, engagée qui a fait ce film. Engagée, c'est-à-dire une femme de gauche et qui se revendique comme telle, une femme féministe qui fait partie hein, d'associations féministes dans son pays. Et la raison, et ce film hein, que vous avez pu voir aujourd'hui, lui donne raison puisque c'est son quatrième film et c'est le film qui a eu donc une reconnaissance puisque c'est le film qui a marqué son premier succès à l'international. Donc ça, je pense que c'est important aussi, et c'est pas seulement une femme de gauche, une féministe qui a fait ce film, c'est aussi une mère, et ça c'est très important, elle s'en explique, c'est-à-dire c'est au moment où elle-même a eu son premier enfant qu'elle a eu l'idée de réaliser ce film, parce que ça aussi on en parlera, même si vous l'avez ressenti en voyant le film. La place de la mère au Brésil n'est pas la même que celle en France ou dans d'autres pays. Elle va jusqu'au bout de son engagement puisque son équipe, alors je ne sais pas si vous avez fait attention au générique, mais est essentiellement féminin au poste clé, c'est-à-dire en chef de poste à l'image, au montage, au son, elle s'entoure de femmes. Voilà, donc il y a vraiment une volonté hein, aussi à ce niveau-là. Alors ça, c'est la première chose voilà, importante, je pense, pour inscrire le film. Deuxième chose, alors là aussi, il faut savoir que donc elle est née en 1964, hein, je vous ai dit, la cinéaste, et 1964, c'est pas une date comme une autre pour l'histoire du Brésil, puisque c'est l'année du coup d'État militaire qui instaure un régime autoritaire dans ce pays de plus de 20 ans. Donc elle est née, en fait, au moment du coup d'État donc, en 1964, qui va donc le mouvement qui s'était initié juste un an auparavant d'un point de vue cinématographique, puisque vous aviez un mouvement, une nouvelle vague, hein, le cinéma novo hein, au Brésil, c'est-à-dire voilà, équivalent, si vous voulez, un petit peu à la nouvelle vague en France, qui a été stoppée net hein, du fait de ce coup d'État. Alors, beaucoup de cinéastes ont essayé hein, de produire et de réaliser des films malgré ça, mais beaucoup, et parmi voilà, les fers de lance de cette nouvelle vague, se sont exilés en Europe au début des années 70. Et donc, jusqu'aux années 90, le cinéma brésilien, ça a été extrêmement difficile, aussi bien au niveau de la production des films ou même voilà, des récits qu'on pouvait raconter. Et alors, je vous dis ça parce qu'à partir des années 90, il va y avoir une volonté politique de relancer en fait la production cinématographique. Et c'est dans ce contexte-là que la cinéaste débute ses études de cinéma à l'université. Donc, une cinéaste qui est née au moment du coup d'État, mais une cinéaste qui débute ses études de cinéma au moment où il y a une vraie volonté politique. Pour permettre à nouveau au film de se déployer, de se développer. Et dans ce contexte, alors qu'elle fait ses études de cinéma, il y a deux films que je pense vous avez vus, ou en tout cas dont vous avez entendu parler, qui marquent cette renaissance, ce début de renaissance du cinéma brésilien. C'est le troisième long métrage de Walter Salles, Central do Brésil. Excusez mon accent, en 1998, et La Cité de Dieu en 2001, là aussi de Meirelles. Donc c'est dans ce contexte-là, et aujourd'hui, donc cette renaissance du cinéma brésilien va continuer avec une figure voilà, très importante qui a réalisé de très beaux films, et il y en avait un qui était présent à Cannes cette année, c'est Kleber Mendonça Filho, donc l'agent secret. Et qui a fait le très beau film Les Bruits du Récif, Aquarius. Donc voilà, qui est l'image en fait d'un cinéma brésilien engagé, comme va l'être cette cinéaste, et pas seulement engagé, c'est-à-dire en dialogue permanent aussi avec son pays, mais avec le monde aussi. Donc voilà, c'est le contexte, je pense, qui voilà, c'est assez intéressant quand même de le rappeler. Alors, ce film, Une seconde mère, questionne avec à la fois singularité mais aussi complexité. C'est tout l'intérêt de ce film, hein, c'est-à-dire il n'est absolument pas caricatural. Il aurait pu l'être facilement hein, par rapport au récit qui nous est fait. Il me semble quelque chose d'essentiel, et d'autant plus pour des jeunes adolescents, c'est-à-dire c'est comment trouver sa place. Alors, comment trouver sa place? Et ça à plusieurs niveaux, c'est-à-dire le film va décliner hein, ce questionnement. À la fois trouver sa place au sein d'une société inégalitaire, et j'y reviendrai, c'est-à-dire que la maison en elle-même, parce qu'on sort peu de cette maison hein, durant tout le film, hein, on est un petit peu enfermé à l'intérieur de cette maison, représente, fait société en fait en elle-même, hein, que ce soit la famille des maîtres avec voilà, le rapport hein, cette domestique et puis l'arrivée hein, de cette fille qui agit évidemment comme un détonateur, j'y reviendrai. Mais ça questionne aussi la place qu'on peut avoir aussi au sein d'un système de valeurs, hein, les valeurs qui sont les siennes, les valeurs qui rentrent en contradiction avec les valeurs de ceux avec qui on partage. Hein, sa vie, hein, très concrètement, parce que même s'il y a de très forts rapports de domination, etc., il y a quand même, voilà, c'est des gens qui partagent un quotidien, qui partagent une vie au sein de cette maison. Sa place, évidemment, la place qu'on peut trouver au sein d'une famille, la place qu'on peut trouver en tant que mère, mais pas seulement, c'est aussi sa place qu'on peut trouver en tant que fille. Voilà, donc ce film, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressant et je pense que le fil peut-être conducteur sera celui-là, c'est-à-dire comment trouver sa place. Et le film, à la fin, est-ce qu'il résout une de ces questions, c'est-à-dire est-ce que les deux personnages, et le personnage principal en l'occurrence, à savoir cette seconde mère, est-ce qu'on est sûr ou pas qu'elle a enfin trouvé sa place? Je pose la question, hein, ce n'est pas une affirmation. Alors, juste avant de développer un petit peu tout ça, il y a une séquence sur laquelle j'aimerais revenir, parce que c'est très. C'est la séquence où Val et Jessica se retrouvent dans la cuisine, toutes les deux, et que Jessica lui montre le plan, enfin, elle a le plan hein, de la maison, justement. Et en parallèle, donc, il y a le père qui mange avec son fils. Alors pourquoi cette séquence est particulièrement intéressante? Parce qu'il me semble qu'elle pose au début en fait les rapports très clairs, même si la mère là est absente de cette séquence en tout cas, les rapports à la fois distincts et très hiérarchisés au sein justement de cette famille. Rapports distincts et hiérarchisés comme le montre très concrètement d'ailleurs le plan. De la maison qui est donc étalée sur la table de la cuisine. Donc, Val et Jessica sont dans la cuisine, le père et son fils dans la salle à manger. Donc déjà, voilà, il y a immédiatement hein, une séparation qui est faite. Séparation qui nous est donnée à voir d'autant plus par la composition du cadre, en fait, de la part de la cinéaste, parce qu'elle nous fait voir, en fait, très concrètement, ces deux salles distinctes. Hein. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc il y a la représentation de cette maison des maîtres, et c'est comme ça qu'elle est appelée hein, dans le film, c'est la maison des maîtres, et qui permet immédiatement de saisir la répartition inégalitaire en fait de cet espace de vie. On le voit sur le plan, mais on l'a déjà vu en fait à l'image, c'est-à-dire que il y a l'appartement très restreint de cette domestique, hein, de Val. Donc relayé sur le plan à gauche, et puis à l'inverse, à droite, la surface quasiment démesurée, hein, démesurément déployée, donc du reste de la maison. Et non seulement donc l'espace de vie de Val donc, est beaucoup plus restreint, et en plus il se situe donc à l'étage inférieur, et ça on va le voir à plusieurs reprises, hein, à la fois par les cadrages qui sont faits. Et ça, il faut le savoir, c'est depuis donc le 19e siècle que il y a cette constante en fait architecturale des demeures brésiliennes de la classe supérieure, de la classe aisée évidemment. C'est-à-dire que on considérait, et ça c'est important parce que c'est une réalité, les domestiques comme devant être séparés, relayés dans un espace donc à l'étage inférieur et dans un espace restreint, parce qu'elles étaient considérées véritablement comme des menaces à la fois pour la salubrité, et on voit très clairement la différence là aussi, hein, à ce niveau-là entre les deux espaces, mais aussi des menaces pour l'intimité, et c'est d'autant plus intéressant que cette seconde mère, eh bien, reçoit le fils des maîtres dans sa chambre, hein, ce qui va nous dire aussi quelque chose de cette relation, hein, évidemment, c'est le seul qui peut pénétrer cet espace-là, et menace aussi pour même la morale hein, des foyers. Et c'est pour ça qu'on les confinait hein, donc dans un espace qui n'avait rien à voir avec le reste de la maison. Et donc, en quelque sorte, dès le début, ce plan qui est montré, et qui est montré pourtant par une fille, résistance par rapport à ce modèle qui dit vouloir dessiner les mêmes plans. C'est toute la contradiction et c'est pour ça que je vous disais que voilà, c'est un film qui n'est pas absolument caricatural hein, mais qui travaille cette question de la complexité. Donc une fille en résistance et qui essaye dès le début, dès qu'elle arrive au sein de cette famille, de montrer à sa mère que elle est complètement sous domination. Et bien pour autant, donc elle lui présente ce plan en lui expliquant et en lui disant qu'elle voudrait dessiner et construire des plans semblables, même si elle rajoute, c'est la petite nuance, plus ou moins, et ça a son importance, hein. C'est comme j'y reviendrai quand Val dit je fais partie presque de la famille, hein. Voilà, chaque terme a son importance, plus ou moins, mais en tout cas, voilà, on voit dès le départ, dans cette séquence, que Val, même si elle n'en a pas conscience au départ, qu'elle est victime de cet espace oppressif. On peut parler d'espace oppressif parce que très clairement, hein, il y a un rapport hein, de domination qui est établi très clairement, ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture de la maison. Donc là aussi, autre chose, donc il y a une distribution très claire hein, des espaces et des rôles qui est lisible à travers ce plan et lisible à travers aussi cette séquence. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est pour ça que je parlais de composition du cadre, c'est-à-dire que le mur de la cuisine occupe les trois quarts de l'image à ce moment-là. Et on a donc un surcadrage de la porte, la mise au point aussi telle qu'elle est faite, qui délimite très clairement deux mondes. Et ces deux mondes qui sont délimités ne vont pas être délimités uniquement par cette composition du cadre, mais aussi par les objets ou les choses dont on a droit aussi au sein de ces espaces. Et la glace qui appartient au fils et qu'il ne faut surtout pas manger sans en avoir l'autorisation, etc., ça vient nous dire quelque chose d'assez fort, hein, même si ça paraît anecdotique. Il y a la glace qui appartient au fils et puis la glace que Jessica va être autorisée à manger parce que c'est leur glace. C'est-à-dire que cette distinction, cette hiérarchisation, elle va jusqu'à ce niveau-là. Et elle est posée aussi dans cette séquence. Donc ça, la leçon est très claire, c'est-à-dire qu'ils appartiennent donc à un monde radicalement différent les uns des autres. D'accord ? C'est la cuisine, donc c'est l'espace donc de Jessica et de Val, qui est matérialisé très concrètement sur ce plan, et puis il y a la salle à manger et toutes les autres pièces qui appartiennent, contrairement donc au père, au fils et à la mère. Là aussi, cet espace très rigoureusement délimité devient aussi, au cours de cette séquence, et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il y aura une évolution au cours du film, très lourd aussi de non-dit, puisque c'est un espace où on va le ressentir dans cette séquence, on ressent toutes les insatisfactions, les rancœurs, mais aussi des désirs qui sont entravés, parce que la deuxième partie de cette séquence, voilà, est assez lourde de silence. C'est-à-dire au début, on a la discussion donc entre la mère et la fille, puis le silence se fait. Pourquoi je dis par exemple lourde de rancœur, c'est-à-dire l'interdiction qui est formulée par la mère à Jessica d'écouter la conversation puisque le père est en train de demander à son fils s'il a une petite amie, etc. Et immédiatement, la mère chuchote, gesticule, etc., pour lui dire « Non, ça ne se fait pas, on n'écoute pas les conversations. » Donc, il y a une interpénétration, hein, parce qu'il n'y a pas de cloison à ce moment-là. Et donc, le cadre nous montre hein, cette interpénétration, parce qu'on voit quand même ce qui se passe. Mais malgré tout, voilà, ça renforce, en fait, le fait que cette distinction, cette délimitation a des conséquences autres que simplement enfermer les personnages dans un espace puis dans un autre. Donc, rancœur, la fille qui ressent à ce moment-là que peut-être voilà, ce fils qui n'est pas le fils, hein, le vrai fils, a des droits qu'elle n'a pas, hein, et ça passe certes par le fait de ne pas pouvoir écouter les conversations, ça passe aussi, j'y reviens, par le fait de ne pas pouvoir manger la glace du fils. Et donc ça, c'est plus que simplement anecdotique, c'est-à-dire, voilà, ça fait émerger où en est la relation aussi entre cette mère et cette fille, du fait de cette délimitation aussi des lieux de vie. Inversement aussi, c'est la même chose, on voit à plusieurs reprises Jessica donc tendre la tête, essayer de regarder de l'autre côté, et le père lui-même en retour, qui essaye, d'accord, de regarder ce qui se passe aussi dans cette cuisine. Alors, on aura l'occasion de revenir sur le père et voilà, son rapport vis-à-vis de la fille aussi. Hein. Mais là, il y a quelque chose aussi de très clair qui dit autre chose qu'une simple délimitation de l'espace, mais qui renvoie à des choses que ces espaces entravent, empêchent, font obstacle, en fait, à une vie hein, qui, sur le papier et dans l'image, a priori se partagent, mais on est loin d'une vie commune, en fait, telle qu'elle voudrait, ou telle qu'elle voudrait se dire, hein, ou telle qu'elle serait. Donc, cette séquence, elle est très importante parce qu'elle nous donne à voir et à ressentir donc, cette réalité oppressive de ce monde. Voilà, et on est à peu près un peu avant la moitié du film. Et ça va être d'autant plus intéressant pour voir comment, progressivement, hein, quel va être le chemin parcouru, justement, par les deux personnages au niveau de ce système qui se met en place. Et donc, je suis revenue sur cette séquence parce que la première idée, je pense, qui serait intéressante à développer, ça serait comment ce film, pour autant qu'il est une fiction, hein, évoque une société parmi les plus inégalitaires au monde. Parce que le Brésil, ça fait rêver. Hein, voilà, il y a plein de jeunes qui rêvent de partir au Brésil, mais il faut avoir conscience quand même de ça. Hein. Et là aussi, quelque chose qui serait à rappeler, je pense, aux élèves. Donc ce film, parce qu'il questionne en creux la place qu'occupent en particulier les catégories populaires hein, au sein de cette société, hein, c'est pour ça que je parle de société profondément inégalitaire, ça serait bien de rappeler que le Brésil a quand même été le dernier pays occidental à abolir l'esclavage. Voilà, petit rappel, hein, je pense, nécessaire, puisque de 1500 à 1825, donc les Portugais qui ont colonisé le Brésil ont assujetti les Amérindiens, puis les Noirs d'Afrique, et ce qui devient extrêmement intéressant en ce qui concerne Moon, ce film, c'est qu'en 1888, il y a eu la loi d'abolition de l'esclavage qui s'appelait la loi d'or, et donc tous les anciens esclaves ont été laissés totalement à l'abandon, à eux-mêmes, sans terre, à la fois exclus du travail ouvrier, et orienté en particulier justement vers le travail domestique. Un siècle après cette loi hein, qui a aboli l'esclavage, toutes ces personnes qui avaient été renvoyées, reléguées donc, aux travaux domestiques, n'ont pas bénéficié des nouvelles lois de travail qui ont été promulguées pour les ouvriers. Et c'est essentiellement des femmes, justement, qui ont été les oubliées donc de ces nouvelles lois de travail qui avaient donc été, suite à l'abolition de l'esclavage, relayées dans ces tâches domestiques, en grande majorité donc des femmes et des femmes noires, des femmes métisses, issues des régions les plus pauvres du Brésil, dont le Nord-Est, et c'est exactement d'où vient le personnage principal ici dans le film de Val. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir ce contexte en tête, parce que la cinéaste elle-même, c'est pas un hasard, d'accord ? Si elle choisit ce personnage, cette actrice pour l'incarner, et dans son récit, hein, puisque c'est dit à plusieurs reprises qu'elle vient de cette région. Autre chose aussi importante, toujours par rapport à ce contexte, c'est qu'il faut savoir que le Brésil, aujourd'hui, est le pays qui a le plus grand nombre d'employés domestiques au monde. Et ces domestiques sont essentiellement concentrés dans les villes du sud, donc Rio, Sao Paulo, tout simplement parce que c'est là où vivent les familles les plus riches, les plus aisées, donc qui peuvent se payer justement des domestiques à demeure, et en particulier des domestiques qui ne se contentent pas exactement comme Val de s'occuper de toutes les tâches propres à un domestique, mais qui s'occupent aussi de l'enfant ou des enfants, donc de leur propriétaire. Et ce métier, encore aujourd'hui, est exercé en très grande majorité par des femmes noires, des femmes migrantes, toujours qui viennent pour la plupart de cette région du Nord-Est, hein, la plus pauvre, hein, vous le savez, du Brésil, et d'origine toujours populaire et très faiblement qualifiée. Et là aussi, on le comprend dans la conversation et dans le rapport que Val a avec sa propre fille, hein, qui, elle, échappe à ça, qu'elle n'a pas fait d'études, elle le dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire voilà, qu'il n'a pas eu la chance que sa fille a. Donc ça, c'est extrêmement important. Et en 2013, donc, il y a eu un mouvement, une mobilisation qui s'appelait la révolte de la salle à manger, hein, par rapport justement à ces employés domestiques, qui ont enfin obtenu les mêmes droits, vous voyez, c'est assez tardif hein, quand même, qui ont enfin obtenu les mêmes droits que les autres salariés, alors à commencer par une semaine de 40 heures de travail, d'avoir leurs heures supplémentaires payées, parce qu'on sent dans les injonctions qui sont faites à plusieurs reprises à Val qu'elle a forcément, elle ne compte pas ses heures, hein, c'est-à-dire qu'elle travaille forcément plus que le temps qui normalement est le sien, et qui ont obtenu des primes aussi pour le travail nocturne. Et donc là, ce qu'il faut avoir en tête, pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a peut-être aussi parmi vous ben, des profs d'histoire, des profs de géographie, il me semble, alors moi je ne sais plus, mais il me semble que le Brésil était au programme d'ailleurs en cinquième, en géographie peut-être. Non, ça a changé. D'accord. D'accord, voilà. Voilà, donc voilà, c'est intéressant aussi parce que voilà, ça peut nourrir en tout cas le cours voilà, sur le Brésil. Mais la cinéaste, en tout cas, donc, choisit ce personnage de Val comme aussi la figure, il me semble, de l'héritage, en fait, d'une société à la fois coloniale et patriarcale. De l'inscrire aussi comme celle qui peut incarner, hein, voilà, cet héritage qui reste très prégnant encore aujourd'hui, si vous voulez, au Brésil, donc d'un héritage à la fois colonial et patriarcal. Ce qui fait la singularité de ce film, et tout l'intérêt aussi, il me semble, et qui peut nourrir d'autant plus des discussions parce que c'est très accessible pour des élèves de collège, c'est que une seconde mère questionne en fait les rapports de classe, mais à une échelle intime. C'est-à-dire que voilà, c'est la fiction assumée qui a été choisie, et l'échelle, c'est une petite échelle, c'est-à-dire c'est l'échelle intime. Donc cette maison, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, matérialise à elle seule la société tout entière, en réalité. Et les rapports qui vont se nouer au sein de cette maison matérialisent là aussi les rapports qui se retrouvent au sein de cette société brésilienne et qui portent cet héritage, hein, encore, malheureusement, hein, colonial et patriarcal. Et donc Val et la famille chez qui elle travaille et vit font société, en fait. Hein. Tous ces personnages en eux-mêmes font société. Et d'ailleurs, là aussi, un détail assez intéressant, c'est que à la première ébauche du scénario, quand la cinéaste a commencé à écrire ce film, le titre n'était pas Une seconde mère, mais c'était La porte de la cuisine. C'est pour ça que je voulais d'autant plus revenir, hein, sur cette séquence, cette première séquence, hein, donc, qui matérialise, hein, cette séparation, cette distinction qui est faite entre les espaces de vie. Parce que La porte de la cuisine, donc la cuisine, ça aussi, c'est un lieu même de contradiction, en fait. Donc vous l'avez vu aussi à plusieurs reprises. À part cette porte de la cuisine, si même parfois elle se ferme, toutes les autres portes sont systématiquement fermées, notamment les portes des chambres. En fait, on comprend dès le départ que Val n'y accède que parce qu'il faut qu'elle y fasse le ménage, d'accord ? Mais lorsqu'on voit ce plan fixe à plusieurs reprises dans le film, des escaliers, hein, et de ce couloir avec l'alignement de toutes les portes qui sont les portes des chambres, c'est systématiquement fermé, les portes restent fermées, c'est très sombre. Donc on voit, hein, l'empêchement qui est fait donc au personnage de pouvoir accéder en fait à ses chambres, sauf quand elle fait ce pourquoi on la paye et ce pourquoi elle est là en fait exclusivement. Et donc la cuisine, ça reste à la fois donc un lieu où certes elle n'a pas le droit de s'asseoir, elle se refuse de s'asseoir, et d'ailleurs elle fait relever à plusieurs reprises à sa fille, non, tu n'as pas le droit de t'asseoir, tu n'as pas le droit d'y déjeuner non plus, un seul, voilà, les maîtres entre guillemets ont le droit de déjeuner dans cette cuisine, mais c'est quand même son domaine, hein, son petit espace, on va dire, de liberté, là où on peut aussi écouter aux portes, là où elle va cacher la drogue du fils, hein, du fait de cette relation privilégiée qu'elle a avec lui. C'est-à-dire, c'est un espace aussi qui échappe à la vue, quelque part, des maîtres. Donc, un petit espace de résistance. Et c'est là aussi où, et c'est intéressant, on peut soit maintenir, soit conquérir aussi une place, quelque part. Et Jessica, j'y reviendrai, c'est la première fois, hein, c'est la première conquête de la place qu'elle va prendre aussi. C'est quand, contrairement justement à Val, elle déjeune, hein, dans la cuisine, c'est-à-dire elle s'assoit et elle prend la place, hein, qui est la même que la mère, le père ou le fils. D'accord ? Donc on peut comprendre aussi pourquoi, à l'ébauche du scénario, peut-être la cinéaste avait pensé à ce titre. Mais en tout cas, là aussi, donc, comme seconde mère incarne cet héritage colonial et patriarcal, bah forcément, sauf peut-être, mais on y reviendra à la fin du film, c'est un personnage qui se plie, en fait, complètement à cette hiérarchie sociale. Donc j'ai commencé, hein, par vous montrer, effectivement, que très clairement, il y avait donc ces espaces distincts, hein, hiérarchisés, mais qui sont acceptés, en fait, par Val, Et c'est pour ça qu'on a l'impression, je vous ai dit, on ne sort pas de cette maison, c'est pour ça qu'on fait société, en fait, au sein de cette maison. Mais il y a une impression aussi qui ressort très clairement, hein, c'est un parti pris, je pense, voulu par la cinéaste, une impression d'enfermement, hein, du fait qu'on ne sort que très peu, hein, et y compris quand on sort dans le jardin, la piscine qui va être vidée, hein, j'y reviendrai, même là, hein, voilà, on n'a pas des espaces très, très vastes, très grands, un horizon, hein, en tout cas, qui se dégage, même quand on sort à l'extérieur de la maison, avec cette mère, hein, qui observe du haut du balcon, comme du haut d'une tour de contrôle, un peu quand même ce qui se passe. Et donc cette impression d'enfermement est aussi accentué pas seulement par ça, par l'emploi dominant de plans très fixes, quasiment tout au long du film, et d'un surcadrage du personnage de Val qui est toujours en fait prise, donc elle est dans le cadre, mais toujours prise par d'autres cadres, soit la baie vitrée, donc à l'intérieur du salon, soit dans l'encadrement des portes. C'est-à-dire, voilà, elle est complètement, même dans des espaces qui seraient plus larges, complètement enfermée, en fait, parce que c'est pas possible, hein, qu'elle puisse, contrairement à la fille, occuper, justement, ne serait-ce que des interstices, en fait. Donc, fonction sociale complètement acceptée, donc d'être à la disposition permanente, donc de ses patrons. Et on le voit quasiment tout le film, Val est eh bien la gardienne, hein, et quasiment fière de l'être, des usages et des lois de la maison. Puisque c'est même elle qui pose les injonctions à sa propre fille sur ce qu'elle peut ou ce qu'elle ne peut pas, ce qu'elle a le droit ou ce qu'elle n'a pas le droit. Et elle-même a complètement intégré, incorporé, hein, le fait qu'il est normal qu'elle vive dans une chambre avec l'accumulation, hein, vous avez vu, là, volontaire, hein, qui nous est donnée à voir de tous les objets, hein, qu'elle entasse, pour insister, hein, sur l'absence totale, hein, de place, même si on lui fait cadeau, hein, de quelques objets, un ventilateur, etc. Hein, mais en tout cas, elle a absolument pas de place. Et donc, dans les liens même qui vont être montrés, eux aussi viennent nous dire l'acceptation en fait de cette hiérarchie, de ce rapport de domination en fait de ces patrons vis-à-vis d'elle, puisque certes il y a des liens d'affection. Alors premier lien d'affection, c'est celui, j'y reviendrai évidemment avec le fils, hein, dont elle est cette seconde mère. Et là, par contre, des liens sincères, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais lien d'affection entre elle et la mère, une mère Barbara, hein, qui veut à plusieurs reprises témoigner que justement elle est plus qu'une domestique, hein, elle lui offre un matelas, quand elle dit ma fille vient, elle accepte le fait qu'elle peut venir, hein, voilà, que pas de problème, mais quand même c'est dans sa chambre à elle, hein, et quand on voit l'exiguïté de sa chambre, on comprend que bon, oui, c'est sympa qu'elle accepte que sa fille vienne, mais enfin c'est pas dans des conditions, on va dire, voilà, qui sont dignes d'un sens très grand de l'hospitalité. Elle lui offre un matelas qui finit, hein, de prendre de la place dans cet espace, et c'est qu'un matelas, hein. Elle fait l'effort de demander des nouvelles de sa fille, des efforts de s'apitoyer un petit peu à plusieurs reprises sur les difficultés qu'elle peut rencontrer. Donc, une femme qui laisse supposer une relation qui serait supérieure à la relation a priori professionnelle ou légale, mais dont on sent, hein, je pense que vous l'avez ressenti aussi, que c'est aussi une manière de rappeler que malgré cet effort-là, elle fait partie presque de la famille, mais elle ne fait pas partie de la famille. Donc ça, c'est important. Et tout ce qu'elle donne à Val, c'est, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas plus pour la dominer aussi, hein? C'est Maus qui disait donner, c'est dominer, hein, et on sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, y compris, hein, dans les présents ou dans les attentions qu'elle peut lui manifester. Parce que il y a en parallèle de cette pseudo-relation d'affectation, hein, qu'elle cherche à nouer avec Val, on voit aussi à un moment donné, hein, voilà, quand elle sort pour la première fois à l'extérieur pour passer une soirée avec ses amis, elle s'est fait belle, elle a mis du parfum, on voit que le parfum l'incommode, hein, la Barbara, enfin, elle dit, ah oui, mais tu t'es parfumée, mais on sent, voilà, comme un geste de retrait, hein, vis-à-vis de ça, parce qu'à ce rapport d'affection, il y a très clairement, et c'est montré comme tel par la cinéaste, un rapport de dévalorisation. Rapport de dévalorisation qui va renvoyer à la fois des vexations, à la fois des petites humiliations, alors c'est pas des grandes humiliations, mais quand même c'est des petites humiliations, au quotidien. Alors, quelles sont ces petites vexations et ces humiliations? Alors, c'est un mépris affiché pour ses goûts, et là aussi, ce n'est pas anecdotique, et le film finit là-dessus, c'est ce service à café offert, choisi volontairement, hein, pour s'approcher d'ailleurs de ce que pourrait aimer sa patronne, hein, c'est-à-dire elle le dit, hein, c'est stylé, noir et blanc, etc. Et mépris absolu, hein, elle regarde d'ailleurs à peine le service, hein, au moment du cadeau, elle lui dit on le gardera pour des occasions spéciales, hein. Nous on n'entend pas occasion spéciale comme Val l'entend, hein. On voit tout de suite que voilà, c'est une manière de dire on va le ranger dans un coin puis on va jamais le ressortir. Et ça se concrétise, hein, avec cette violence, en fait, parce que c'est très violent, hein, même si voilà, ça n'a pas l'air, au moment où elle le sort, de tout de suite lui dire surtout pas, alors que c'est une soirée importante, etc., voilà, relayer le service à café offert, voilà, il ne faut surtout pas le sortir quand on a des invités, ce n'est pas présentable. D'accord ? Donc ça, c'est, voilà, ça fait partie de quelque chose qui dit, non, c'est, voilà, tu peux m'offrir des choses, mais... Voilà, c'est pas possible que je les accepte. Volonté aussi, dans ces vexations, ces humiliations, de culpabiliser à plusieurs reprises Val. Le matin où elle se réveille en retard, hein, et que Jessica prend la place, hein, justement, dans la cuisine. Certes, on pourrait se dire, bon, bah, c'est une patronne, voilà, qui est pas sur un mode autoritaire, voilà, elle... Mais elle lui dit, ta fille adore la confiture. Donc sous-entendu, elle lui dit pas, ta fille aurait pas dû s'asseoir, etc. Mais ta fille adore la confiture, ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est assez fin, c'est jamais appuyé. Et elle lui signifie très clairement aussi par ça que, en fait, la place que Jessica a prise, elle a pu la prendre parce qu'elle n'était pas là à ce moment-là. D'accord ? Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça, hein. Qui nous montre en fait qu'il y a un rapport permanent quand même de dévalorisation qui la renvoie en fait à sa place. Et donc c'est là encore une fois qu'on voit que Val accepte cette hiérarchie sociale parce qu'elle ne réagit pas en fait à ces mots de mépris, à ces vexations qui sont faites de la part de Barbara. Et puis... Ça va encore plus loin au fur et à mesure qu'on avance dans le film, c'est-à-dire au rapport de dévalorisation. On passe littéralement, et pas seulement cette fois dans l'espace, à un rapport quasi oppressif qui se manifeste donc à partir du moment où la jalousie naît en fait de la part de la mère. Jalousie qui naît à la fois du fait que on comprend que ce rapport privilégié qu'elle a avec son fils, elle le supporte de moins en moins. Et... jalousie qui naît aussi du rapport que le père, hein, commence à vouloir avoir, hein, puisque c'est que dans un sens, on le comprend, hein, avec Jessica. Et donc là, Barbara se révèle, hein, dans tout ce sentiment de puissance et de domination. Hein, elle fait vider la piscine en disant qu'il y avait des rats. Nous, on comprend que c'est totalement faux. Voilà, elle renvoie la faute, hein, en permanence sur la mère, comme quoi, voilà, ça serait une mère indigne, sur le fait que ça serait une domestique qui ne fait pas bien son travail, alors qu'on voit qu'elle se donne, voilà, absolument corps et âme pour ce qu'elle fait. Et puis avec ce plateau, hein, dont la hanse a été cassée, qui devient le prétexte de renvoi, carrément, hein, donc de la fille. D'accord ? Donc là, hein, on passe un cran, si vous voulez, supérieur. Et donc, rapports qui sont posés, hein, voilà, et vous le voyez bien, et vous l'avez vu, hein, qui hérite directement de ce système, hein, colonial, qui ne dit pas son nom, mais qui établit clairement que Val est inférieur, hein, du fait de son statut même de domestique, de nourrice à domicile. Donc c'est ça, en fait, ça vient nous dire ça. Mais vous voyez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est la sphère intime qui est choisie ici par la cinéaste. Hein, c'est pas un grand discours, d'accord ? Et pour des élèves, c'est d'autant plus intéressant, parce que ça permet d'aborder ces questions, mais par ce biais-là, il me semble. Et pour aussi montrer aux élèves que, y compris aujourd'hui, voilà, ces traces de colonialisme sont persistantes à travers ce genre de choses. Parce qu'on est vraiment dans un rapport maître-esclave, en fait, disons les choses comme elles sont, hein. Mais qui ne dit pas son nom ouvertement, et ce qui en est d'autant plus, si vous voulez, toute la perversion, hein, toute la perversion de ça. Autre rapport aussi, mais avec la même finesse qui est posée, c'est les rapports de classe, puisque, c'est ce que j'ai dit, j'y reviens, Val est presque, hein, le terme presque de la famille, et c'est Barbara qui lui dit, mais oh, tu es presque de la famille. Et ce presque, il est terrible parce qu'il exclut la possibilité de faire partie vraiment de la famille. Or, vu les rapports qui sont noués entre Val et le fils, on s'interroge pourquoi elle ne pourrait pas faire partie vraiment de la famille, puisque c'est une seconde mère, comme le pose le titre, et elle est même plus une mère, d'accord ? Et on comprend dès le générique du film, enfin dès la séquence d'ouverture, que ne l'a été sa propre mère. Or, elle ne fait partie presque de la famille, pas totalement. Et pour revenir là aussi sur la séquence d'ouverture, c'est extrêmement intéressant. Dans la séquence d'ouverture, on ne fait en fait au départ qu'entrevoir le visage donc, de Val, et dès le départ se pose la question de sa juste place dans le cadre. Pourquoi on ne fait qu'entrevoir ce visage? Parce que justement, dès le départ, voilà, il y a un problème d'avoir la place qui devrait être la sienne en réalité. D'accord ? Et à ça s'ajoute, s'inscrit hein, sur cette séquence d'ouverture, le titre « Une seconde mère ». Et je pense que même si vous ne connaissez pas le film, de toute façon, tout de suite, vous est mis en doute le fait que cette femme pourrait être la mère de cet enfant dont, qui apparaît ensuite à l'image. D'accord ? C'est-à-dire que tout de suite, la cinéaste pose le doute sur la place que cette femme, hein, aussi joviale soit-elle, hein, voilà, elle renvoie une image voilà, très, très radieuse, elle sourit, elle danse, voilà, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas une ouverture de film plombante, là aussi, on est sous le soleil, voilà, au bord d'une piscine, voilà, quelque chose de visuellement agréable, mais qui induit quand même tout de suite cette juste place, cette place que Val n'arrive pas à trouver, en fait, donc au sein de cette famille. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant, parce qu'on a une cinéaste qui pose absolument pas les rapports de domination de façon simpliste ou caricaturale, en fait. Tout est amené pour montrer aussi toutes les contradictions des deux côtés, hein, c'est-à-dire y compris du côté de Val ou de Jessica. Hein, quand je vous ai dit que Jessica, voilà, au départ dit ben, « c'est des plans comme ça que je veux dessiner », c'est pour ça que j'insiste là-dessus, voilà, c'est toute la contradiction aussi de ce personnage. Hein. Et Val, dans son respect hein, de ce qu'on lui demande de faire, alors qu'on est dans un système de dévalorisation, d'oppression, etc., voilà, pourquoi elle accepte autant de choses, en fait. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a de la place, en fait, pour l'ambiguïté, et ça aussi, ça peut vraiment donner, il me semble, l'occasion, avec vos élèves, voilà, pour les... eux-mêmes les déculpabiliser, les décomplexer, c'est difficile en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui pourtant sont les premières victimes de l'oppression d'un certain système, hein, libéral, etc., et qui sont les premiers à vouloir s'acheter des fringues de marque, aller dans les endroits les plus qui appellent à la plus grande consommation, etc. Et on ne peut pas leur en faire un reproche, mais c'est, voilà, c'est compliqué, en fait, surtout quand on est jeune, etc., de ne pas comprendre, vous voyez ce que je veux dire, immédiatement, le rapport qu'on peut avoir aux choses, Alors que ces choses mêmes sont ce qui nous domine, ce qui nous oppresse, etc. Et c'était Pasolini qui le disait très bien, ça, en fait, et qui parlait de second fascisme en parlant de la société de consommation, et qui était très, très visionnaire avant même aujourd'hui, et qui avait perçu, en fait, comment la jeunesse, en fait, se tournait vers ce qui l'opprimait, en réalité. Et là, c'est pour ça que ce film est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il pose ces contradictions, hein, des personnes qui sont victimes d'un système de valeurs, d'un système de rapport de classe, mais la cinéaste ne les accable pas et essaye de montrer, d'accord, que c'est pas si facile, c'est pas si évident d'intégrer en fait ce dont on est soi-même victime. Et c'est pour ça que ce film, de ce point de vue-là, je le trouve extrêmement intéressant. Et qui peut donner vraiment, voilà, aussi l'occasion de discuter, de débattre avec vos élèves. Donc, il y a Val qui occupe cette place, hein, qui accepte la hiérarchie sociale, et on a Jessica, hein, qui vient contrebalancer, hein, donc je vous le disais, qui arrive au sein de cette famille absolument comme un détonateur. Je vous cite la cinéaste elle-même, voilà ce qu'elle dit de son personnage, et c'est intéressant pour savoir comment elle a écrit en fait ce personnage. Elle dit: Jessica ne respecte pas les règles séparatistes parce qu'elle ne les reconnaît pas et se voit ailleurs. Elle est à l'image du nouveau Brésil, le Brésil post-Lula. Alors c'est extrêmement intéressant puisque je vous cite les mots de cette cinéaste parce que c'est comme ça qu'elle a écrit ce personnage qui est indispensable au-delà, hein, du lien de filiation sur lequel je reviendrai, évidemment, parce qu'il est question de ça aussi dans le film. C'est-à-dire, c'est donner, en fait, voilà, le miroir de ce qu'on peut ne pas accepter et comment peut s'organiser une résistance, en fait, à ce système de valeurs, à cet héritage, à cette dévalorisation et cette oppression qui a lieu, hein, au sein de cette micro-société que représente, hein, cette maison, en fait, au sein de laquelle elle est cordialement, au départ, cordialement invitée. Alors, pas invitée, c'est-à-dire on l'accepte. D'ailleurs, elle n'est pas invitée, en réalité. Hein, c'est-à-dire que Barbara dit oui, le temps qu'elle trouve un appartement, elle peut venir, mais il n'y a pas une invitation en tant que telle. Et ça aussi, ça a son importance, quand même. Elle n'est pas invitée. Alors, petite précision là aussi, toujours pour contextualiser, parce que c'est, voilà, c'est pour ça que je vous disais, hein, c'est une fiction, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui relève du documentaire dans ce film. Donc, sous la présidence, hein, de Lula au Brésil, de nombreuses, vous le savez, de nombreuses mesures ont été prises, évidemment, en faveur des classes populaires, et notamment un programme de bourse, donc, pour les étudiants. Programme de bourse pour soutenir l'intégration et la possibilité des jeunes Brésiliens issus des milieux populaires de pouvoir donc intégrer des universités. Et là, très clairement, c'est une référence, enfin Val, hein, qui vient à Sao Paulo dans l'optique d'intégrer la faculté d'architecture. C'est pas dit, hein, voilà, c'est pas dit dans le film, c'est pour ça que je vous en parle, mais c'est très concrètement, hein, ça rentre dans ce programme, hein, cette politique, en fait, donc de quotas sociaux et ethniques, pas seulement sociaux, ethniques aussi, qui a été instauré donc au Brésil en 2012 dans les universités. Donc Jessica, en fait, c'est l'incarnation, c'est la figure du refus de la domination. Et donc, ce refus va se manifester tout de suite par le fait qu'elle investit d'autres espaces, contrairement à sa mère. Elle investit la cuisine, c'est un espace où elle peut, mais elle s'assoit. Dans la cuisine, elle s'assoit et elle peut y déjeuner. C'est-à-dire, elle prend le droit, en fait, d'y déjeuner. Mais dans la cuisine, non seulement elle s'y assoit, elle prend le droit de déjeuner, mais aussi elle va dérober de la glace. Je reviens sur la glace, mais parce que c'est vachement intéressant, en fait. C'est-à-dire en cachette, d'accord ? Voilà, elle s'autorise, d'accord, à prendre la glace qui est réservée au second fils, en quelque sorte. Et pour deux raisons. C'est-à-dire, et c'est ça qui est intéressant, là aussi, hein, toute la complexité, c'est-à-dire on voit bien qu'elle prend de la glace pas seulement parce que elle veut manifester qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'y ait pas droit, mais aussi elle prend de la glace parce que c'est la glace du fils, enfin, par rapport à son propre rapport vis-à-vis de sa mère. donc s'entremêlent, et c'est ça qui est hyper intéressant, à la fois donc le rapport filial qui est remis en question et ce rapport de domination. Donc ça, c'est pour ça que cette glace, enfin voilà, je pense qu'elle est extrêmement intéressante. Val va investir d'autres espaces, elle va être invitée, elle, et là pour le coup c'est une invitation, par le père à manger à sa table et dans le salon. C'est-à-dire non seulement elle mange à la table du père, mais dans le salon. Elle va aussi dormir, donc, dans la chambre d'amis, y dormir, y réviser. Chambre d'amis, on le comprend dès le départ, qui est exclusivement réservée aux amis sous-entendus qui font partie de la même classe sociale, d'accord ? Donc là, et on voit tout de suite la réaction de Barbara, hein, quand le père dit bah, « tu peux prendre la chambre ». Mais ce qui est intéressant, c'est que le père accepte, mais c'est Jessica qui lance l'idée. C'est-à-dire, elle s'assoit, voilà, et ça c'est très fort hein, comme geste, elle rentre dans la chambre, elle demande à la voir, elle rentre dans la chambre, elle dit que c'est une suite, hein, elle parle de suite d'ailleurs, et là, pourquoi elle parle de suite ? Parce qu'elle vient de voir la chambre de sa mère, quand même, d'accord ? Donc elle peut mesurer hein, voilà, la différence d'espace. Et puis, elle investit, pas seulement le lieu, c'est-à-dire elle investit en essayant le matelas pour voir voilà, le confort du matelas, elle investit tout ce que cette chambre suppose en termes de confort, en termes d'hospitalité. Et puis, elle se baigne dans la piscine, d'accord ? Et c'est pour ça que Barbara va décider de vider cette piscine. Elle investit le salon en regardant les livres. D'accord ? Elle va même prendre un livre qu'elle va emmener. Et puis, dernière chose extrêmement importante, là où on ne verra jamais Val, parce que Val, elle n'a pas le droit d'investir ses lieux et elle ne les investit pas de la même façon que Jessica, mais elle y circule malgré tout. Alors, elle y circule pour servir, hein, d'accord ? Mais elle y circule. Il y a un lieu où on ne verra jamais Jessica, et qui, Val, et qui est le seul lieu investi par sa fille, et ça c'est très important. C'est donc ce gratte-ciel qu'elle visite, enfin, que le père l'emmène visiter, hein, le gratte-ciel résidentiel. Donc ce gratte-ciel qui s'appelle l'Edificio Copan et qui a été donc conçu par un architecte, Oscar Niemeyer. Alors pour la petite histoire, c'est intéressant parce que cet architecte, Oscar Niemeyer, était un militant communiste qui rêvait d'une ville construite selon des idéaux égalitaires. Donc, vous voyez, là aussi le choix qui est fait par la cinéaste, d'accord, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette information, c'est-à-dire que ce lieu qui ne va pas être investi hein, justement par Val, qui accepte cette hiérarchie sociale, va être donc investi par Jessica, et c'est pas n'importe quel lieu, c'est-à-dire c'est un lieu qui symboliquement a été conçu par un architecte, mais pas n'importe quel architecte, un militant communiste qui rêvait d'une société, en fait, égalitaire. Et non seulement elle va le visiter, mais elle va même y être admise, c'est la faculté d'architecture, qui vient, en fait, nous dire l'ouverture possible. C'est la touche d'espoir de ce film aussi, hein, même si on pourra s'interroger si finalement cette seconde mère trouve ou va trouver sa place. En tout cas, Jessica, elle, la trouve à un certain endroit, en tout cas d'un point de vue social, c'est que non seulement elle visite cette faculté, mais elle y est donc intégrée. Donc, pour Jessica, contrairement à sa mère, les espaces immédiatement sont poreux. Il y a une interpénétration possible, une étanchéité possible, et c'est pour ça que dès le début aussi, on le voit, et c'est ce qui choque d'ailleurs sa mère, elle traite en fait Barbara comme son égale, d'accord ? Tout de suite, parce qu'elle a les codes, contrairement à sa mère, et là aussi, il ne faut pas juger Val comme une faible ou quelqu'un qui manquerait de courage, etc. Elle n'a pas les codes. Elle n'a pas les codes, elle n'a pas la culture. Sa fille, oui. Et donc, elle, d'accord, ne voit pas la raison pour laquelle elle ne pourrait pas parler, en fait, à Barbara ou à Carlos ou au fils d'égal à égal. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'elle n'a que faire de cette hiérarchie sociale à laquelle se plie sa mère. Et ça, dès le début, dès son arrivée. Et ça aussi, je vous le dis, ça peut être intéressant. Alors, il y a peut-être des profs de lettres aussi, j'imagine, dans la salle. de travailler peut-être ces questions avec quelques séquences de films, avec des textes de la littérature qui travaillent les rapports maître-employés. Donc là, vous avez des exemples, par exemple, chez Flaubert, Un cœur simple, je crois. Bon, aussi sur le journal d'une femme de chambre, pour ce qui concerne tout ce qui est humiliation, dévalorisation, etc. Mettre en parallèle aussi, et ça serait d'autant plus intéressant, puisque c'est un film contemporain, de voir comment, en fait, voilà, un questionnement aujourd'hui peut rentrer aussi en résonance avec des textes plus anciens, etc., par exemple. Donc, Jessica, ça m'amènerait à une deuxième entrée possible sur ce film. Du fait de ce positionnement, hein, contraire à celui de sa mère, c'est aussi le reflet, et c'est ce qui est recherché sans doute par la cinéaste, d'un Brésil en mutation. Puisque la fille et la mère reflètent justement dans leur rapport à cette famille ce Brésil en changement, hein, en mutation. Pour autant, hein, que là aussi, c'est pas caricatural, parce que quand je viens de vous dire qu'il y a des contradictions, que c'est un film qui travaille sur la complexité, sur l'ambiguïté, c'est-à-dire que cette mutation, elle va pas se faire du jour au lendemain, hein, et elle continue d'ailleurs aujourd'hui encore à se faire. C'est-à-dire que, un exemple, cette politique quota ethniques et sociaux pour permettre aux étudiants issus des classes populaires de rentrer dans les universités, c'est très bien, hein. Première évolution vers un changement possible, mais si vous avez la chance un jour d'aller au Brésil, ou si des étudiants intègrent dans un programme Erasmus des universités brésiliennes, ils vivront dans une petite prison dorée, hein. C'est-à-dire qu'ils ne seront absolument pas amenés, vous voyez ce que je veux dire, à avoir une certaine réalité du Brésil, hein, parce que les universités sont clairement séparées des quartiers pauvres, et alors c'est pas dit, c'est pas interdit, etc., mais tout est fait pour qu'ils soient très accompagnés, très encadrés, pour éviter, voilà, il faut l'avoir à l'esprit. C'est pour ça, quand je vous disais au début, voilà, certains rêves du Brésil, comme, alors bien sûr, parce qu'il y a plein de très belles choses au Brésil, la culture est passionnante, etc., mais il faut pas penser que si on va en tant qu'étudiant au Brésil, voilà, on côtoiera et on se mêlera avec, même si on en a envie, hein, c'est parce que j'induis, hein, mais voilà, on ne sera pas du tout forcément appelé, et ça ne sera pas forcément possible de vivre avec les pauvres, de vivre avec ceux qui sont exclus, etc. D'accord ? Et c'est pour ça que, voilà, c'est important de le dire. Et si la cinéaste montre les failles, les fêlures des personnages, que ce soit celui de Val, mais y compris celui de Jessica, c'est aussi, je pense, parce qu'elle ne veut pas, en fait, donner une image d'un Brésil en mutation qui réglerait tous les problèmes d'un coup d'un seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, ça, c'est extrêmement intéressant. Quand elle visite le premier appartement, c'est-à-dire première tentative de départ, vous vous souvenez, et finalement, bah, c'est déjà pris, etc. C'est-à-dire que là aussi, ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire que même quand la possibilité éventuellement d'avoir son appartement en soi, etc., en présentant toutes les garanties a priori qu'il faut, bah, ça leur passe sous le nez quand même. Appartement, non, à une catégorie populaire, il y aura toujours quelqu'un un peu au-dessus aussi, en permanence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, elle le souligne de façon extrêmement fine. Elle n'y va pas avec les gros sabots. Mais voilà, mais cette séquence aussi, elle sert à ça. Elle n'est pas là comme ça pour faire avancer d'un point de vue dramaturgique le récit, mais elle vient souligner ça aussi, il me semble. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que dans ce Brésil, en fait, en mutation, il y a la volonté aussi de montrer, alors pas seulement cet héritage colonial et patriarcal, mais aussi la persistance, en fait, de représentation, en fait, à la fois sociale, c'est-à-dire, cette fois, c'est des schémas représentatifs, hein, voilà, de représentation sociale, de représentation sexuelle, de représentation ethnique, qui, en fait, voilà, continue à persister, y compris sous le masque de la modernité. Voilà, ça, c'est important aussi, et ça aussi, il faut le dire aux élèves. C'est-à-dire, un pays en mutation ne règle pas tout, et qu'il y a, hein, des représentations héritées qui continuent, hein, à persister à tous les niveaux, c'est-à-dire y compris social, y compris sexuel, y compris ethnique. La modernité, elle a aussi, si vous voulez, ses failles, ses propres failles, c'est-à-dire qu'elle laisse voir, elle fait ressortir, vous comprenez ce que je veux dire, même quand on a essayé de les gommer, elles vont faire ressurgir, en fait, certains réflexes certaines représentations, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, comment on peut amener les élèves à le questionner? Parce que, en fait, au sein aussi de cette micro-société, enfermée, presque étouffée au sein de cette demeure pourtant qui a tout d'un petit paradis en soi, où on voit qu'il ne manque absolument de rien, c'est qu'il y a une confrontation, et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire c'est plus seulement donner à voir le rapport de classe, le rapport de domination, mais à questionner la confrontation en fait de valeurs, d'un système de valeurs entre les différentes classes sociales. Donc système de valeurs. Alors je vous donne plusieurs exemples, et ça aussi c'est extrêmement intéressant, mais c'est pas surligné aussi de façon grossière, etc. Donc pour Jessica, pourquoi le choix de la faculté d'architecture? Parce que qu'est-ce qu'elle le dit, elle le formule, c'est un vecteur de changement social. Ça c'est très beau, hein, le fait que la cinéaste fasse dire à son personnage la raison pour laquelle c'est la fac d'architecture et pas une autre fac. C'est pas pour être architecte en tant que tel et avoir un métier de positionnement social, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, ça rentre encore en écho avec cette tour qu'elle visite et qui a été construite par cet architecte communiste. Vecteur de changement social, c'est-à-dire à travers cette phrase, consciemment, complètement consciemment ou pas, en tout cas, pour Jessica, c'est peut-être un moyen, d'accord, de changer socialement les choses par justement une organisation d'un espace différent, d'accord. C'est pour ça que j'ai voulu commencer l'entrée dans ce film par ce rapport qui était posé par l'occupation de l'espace au sein de cette maison, parce que ça dit quelque chose de plus important, c'est-à-dire que l'espace, c'est aussi très concrètement un vecteur de changement social. Et nous, même, on l'éprouve. Je prends Marseille, tout simplement. C'est pas la peine d'aller forcément à Sao Paulo. C'est-à-dire que, et ça a toujours été pensé comme ça, comment on peut changer socialement les choses en réunissant, mais pas de façon ni arbitraire, ni posturale, les gens au sein d'espaces qui se valent tous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire d'un espace commun, mais qui serait donc relié, tous les espaces pourraient être reliés entre eux et se ressembleraient tous, c'est-à-dire on n'aurait pas les quartiers nord, et puis le centre-ville, et puis Malmousque, et puis le 8e. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ça, dans l'esprit de Jessica, quand elle dit un vecteur de changement social, c'est-à-dire dans l'idéal, d'accord? On pourrait construire une égalité sociale en construisant une égalité spatiale, mais une vraie égalité spatiale, d'accord? Et donc ça, c'est assez, assez intéressant, parce que là s'oppose un système de valeurs, parce que pour Barbara, et même pour Val, sa mère, faire des études, peu importe, d'architecture, d'ailleurs à un moment donné, Barbara, elle lui demande, mais elle est en fac de quoi? D'architecture, elle lui dit, pourquoi l'architecture? La mère, c'est pas répondre, elle dit, je sais pas. D'accord. Et là aussi, ce n'est pas un désintérêt du tout. C'est simplement, elle ne comprend pas, n'a pas intégré ce que pouvait amener le fait de faire ces études-là. Et si opposition de système de valeurs, parce que là aussi, pour la mère, son fils qui fait des études à la fac, ce n'est qu'une réussite sociale. Réussir à intégrer une faculté, ce n'est pas du tout le même positionnement. Vous comprenez ce que je veux dire, et y compris pour le fils, c'est réussir socialement, avoir sa place au sein d'une société faite d'inégalités. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas permettre de gommer des inégalités. Donc, en fait, rien que ça, vous voyez, c'est pour ça hein, que je vous parlais de subtilité au terme de l'écriture de ce récit hein, et du scénario. C'est montrer hein, cette opposition d'un système de valeurs qui dit, qui vient dire en fait, l'opposition d'un rapport de classe, là aussi, quelque part. Hein, et de la difficulté à pouvoir, trouver un mode, en fait, de relation, de communication possible, etc. Et là aussi, il y a une phrase terrible, je vous la répète, parce que je ne sais pas si vous l'avez retenue. Val dit « On sait dès la naissance ce qu'on peut faire ou pas ». C'est terrible. Et sa fille s'oppose à ça. On sait dès la naissance ce qu'on peut faire ou pas, et fort heureusement que non. C'est-à-dire que la mère, pour elle, en fait, c'est inscrit, il y a un déterminisme social, c'est ça. D'accord ? Dans cette phrase, il y aura un déterminisme social qui fait que d'où on est né, du milieu dans lequel on est né, de toute façon, il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça qu'elle incorpore et qu'elle intègre totalement tout ce qui lui est demandé au sein de cette famille. Parce qu'elle est née dans un milieu, hein, dans une classe sociale, dans une région délaissée, etc. Donc elle est domestique, ben oui, il n'y a pas de problème. Alors que sa fille, non. Cette opposition du système de valeurs, il est matérialisé aussi, et c'est très fort, même si là aussi, hein, voilà, c'est une idée à laquelle il fallait penser, c'est cette piscine, d'accord, qui va être investie par Jessica, et investie quasiment à la fin du film, même si pas complètement, parce qu'elle ne s'y baigne pas, elle relève son pantalon, elle marche la nuit, mais voilà, c'est un geste assez fort, c'est-à-dire que, quelque part quand même, cette opposition du système de valeurs va faire son chemin dans la tête quand même de cette mère, d'accord ? Et quand la fille lui dit « mais tu t'es déjà baignée ?» Elle lui dit « ben non, c'est pas possible, etc. » La nuit, le soir, alors c'est pas en pleine journée au vu de ses patrons, c'est pour ça qu'il y a encore une résistance, hein, c'est pour ça que, voilà, je sais pas si le chemin est parcouru jusqu'au bout, mais en tout cas, quand même, elle s'autorise, parce que c'est ça, elle s'autorise à aller dans la piscine, d'accord ? Alors, pas, je répète, hein, de nuit, quand les patrons ne la voient pas, etc., mais elle s'autorise ça, et c'est déjà quelque chose de très important, d'accord ? Et cette séquence, voilà, elle rentre quand même en écho avec tout ce qui a été dit par sa fille, et elle rentre en écho avec, voilà, cette distinction, cette séparation quand même des espaces et des systèmes de valeurs. Alors, dernier point, très important aussi sur ce film, mais qui est lié, hein, c'est pas, enfin, à mon sens, c'est pas deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, c'est que ce film, donc, en questionnement la place, voilà, quelle est sa place, en fait, comme je vous l'ai présenté, c'est qu'elle ne questionne pas la place qu'on peut avoir d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue affectif. C'est-à-dire qu'il est question aussi d'un rapport de filiation, voilà, qui est posé dans ce film. Mais ce rapport de filiation, encore une fois, j'insiste, et je pense que voilà, ça peut parler très fortement à vos élèves. C'est-à-dire que finalement, la place qu'on se donne, ou la place qu'on nous donne socialement, elle est reliée aussi à la place qu'on peut trouver d'un point de vue affectif. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, je reviens sur cette séquence d'ouverture, hein, où je vous disais que le cadre induit déjà cette juste place que cette mère ne trouve pas. Il y a aussi quelque chose qui est posé dès cette séquence d'ouverture du film, c'est-à-dire on a cette femme avec qui s'occupe de cet enfant, donc mise en doute immédiate hein, sur le fait que c'est possiblement sa mère. Et dans le même temps, elle reçoit un appel téléphonique. C'est sa fille, là, aucun doute. Hein, on comprend que c'est sa fille. Et dès le début, en fait, il y a un déplacement en fait, qui est opéré par la mise en scène, déplacement affectif. C'est-à-dire qu'on comprend que cette mère n'est pas avec sa fille, d'accord, et que sa fille est très loin. Et toute la difficulté, ça aussi, hein, grande subtilité, la difficulté d'une relation mère-fille, elle est induite dès le départ parce que, vous avez vu, elle l'entend mal. Elle l'entend mal, il y a du bruit en plus qui se fait. Hein, voilà, il y a la ville qui rentre un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu, d'un point de vue sonore, hein, à l'intérieur du jardin. Et en fait, voilà, ces parasites sonores, qu'est-ce qu'il vient de nous dire, en fait, dès l'ouverture du film, alors qu'on ne connaît rien encore à l'histoire, il vient de nous dire la difficulté, en fait, de la relation, cette relation distendue, en fait, et cette difficulté à communiquer, parce que ça va être le cas, quand même, quasiment tout le film, il y a un problème, en fait, du fait que la mère et la fille n'ont pas été ensemble, en fait, et ça vient, enfin, c'est posé dès la séquence d'ouverture, et c'est assez fort. Dès la séquence d'ouverture est posé aussi le problème de la place qu'occupe en fait Jessica auprès de sa mère. Parce que c'est pas elle qui est auprès de sa mère, c'est cet enfant. Donc là aussi, hein, vous voyez, de façon directe, c'est posé. Et tout de suite après cette première séquence d'ouverture, vous avez le titre qui s'inscrit, une seconde mère. Ellipse, là aussi, on retrouve non plus un petit garçon, mais un adolescent. Le chien a grandi. Vous voyez, c'est très. Voilà. Pas grand-chose, hein. Là aussi, vous pouvez faire repérer à vos élèves que, voilà, en cinéma, il n'y a pas besoin de tout raconter, hein, mais que, voilà, le chien grandit, l'enfant grandit, on comprend que se sont écoulés, hein, sûrement au moins une dizaine d'années, d'accord? Et en fait, cette ellipse temporelle, qu'est-ce qu'elle vient à nouveau surligner? Que la relation, puisque Jessica va arriver quasiment tout de suite après, que la relation déjà paraissait compliqué, mais qu'elle sera forcément d'autant plus compliquée parce que discontinue, c'est-à-dire il y a une distance donc physique et une distance du point de vue temporel entre cette mère et cette fille. Du coup, le titre, Une seconde mère, on commence à le comprendre. Parce que pour moi, le titre, il résonne à deux niveaux, c'est-à-dire Val est la seconde mère pour le fils de la famille, d'accord, puisqu'il a une mère. Une vraie mère, mais elle tient le rôle de mère en réalité auprès de lui. Mais aussi, seconde mère, c'est que pour Jessica, sa mère, en fait, elle a toujours été au second plan. Au second plan, en fait, et vous voyez, ça se traduit visuellement, mais aussi au second plan parce qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que dès le départ, ne serait-ce que par le titre, et poser en fait les enjeux des rapports, certes sociaux, mais aussi affectifs. En fait, ce lien extrêmement compliqué, hein, de filiation, il y a une inversion en fait qui est posée, une inversion qui est faite. Donc ça, très important. Et je vous le dis aussi, le titre original du film, c'est-à-dire dans sa version portugaise, vous excusez. Je vais vous dire la traduction française, c'est À quelle heure reviendra-t-elle? Le titre portugais, c'est À quelle heure reviendra-t-elle? C'est assez beau aussi, parce qu'il y a une attente. Pourquoi je vous donne ce titre? Parce que, point d'interrogation, hein, c'est-à-dire que est posée, avant même qu'on assiste au récit du film, une attente, en fait. Et l'attente de qui? En fait, on peut l'entendre comme l'attente de la mère vis-à-vis de sa fille, cette fille qu'elle n'a pas pu voir, hein, d'accord? Mais aussi l'attente de sa fille, de la fille aussi vis-à-vis de sa mère, d'accord? Quand c'est qu'enfin je vais la revoir, quand c'est qu'elle reviendra enfin, d'accord? Et là aussi, contextualisation très importante, il faut savoir que c'est très fréquent, et encore aujourd'hui, que les nounous, en fait, domestiques au Brésil, donc comme je vous l'ai dit déjà, hein, toutes issues de milieux donc défavorisés, populaires, etc., en fait, gardent les enfants de leur patron et laissent leurs enfants n'élèvent pas leurs propres enfants. D'accord? Ça, c'est une vraie réalité. Ce n'est pas fictionnel, c'est une réalité aussi. D'accord? Donc, qui pose aussi, évidemment, cette question, hein, du rapport, vous comprenez pourquoi je lis les deux, du rapport de filiation avec ce rapport de classe, en fait, hein, qui devient, par définition, inévitable dans cette société-là. D'accord? Ouais. Voilà. Et complètement intégré, complètement accepté. Et d'autant plus, du point de vue des plus riches, là aussi, il faut le savoir, c'est très déprécié que de devenir mère au Brésil. D'accord? Et c'est pour ça que la cinéaste a pensé à l'écriture de ce film au moment où elle-même est devenue mère, parce que c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, alors déjà en tant que femme, c'est compliqué, mais en tant que mère, c'est encore pire, c'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose de pas du tout considéré. Et c'est pour ça que les femmes voilà, des classes moyennes très aisées, des classes bourgeoises, voilà, prennent systématiquement à demeure une domestique qui sert aussi de nounou à leurs enfants, et leurs enfants sont élevés, comme ici c'est le cas dans le film, par ces domestiques. Donc ça c'est extrêmement important aussi de le souligner. Est-ce que c'est un film qui vous semble intéressant à montrer, enfin à choisir pour vos élèves? C'est pas le grand enthousiasme, mais c'est pas un oui massif. Alors je réponds aux questions. Pardon, il y avait une question. Oui.
Oui, j'avais une question par rapport au fils et Fabinho. Il est dit à un moment du film qu'il n'était pas fils unique, mais qu'il avait une sœur. J'ai vu le film qu'une fois. Et je crois qu'ils en reparlent pas. Comment vous interprétez ça, le fait qu'il soit dit très clairement, non, par contre, c'est pas un fils unique?
Alors, parce qu'on suppose, toujours dans cette idée, hein, justement, de, voilà, comme quoi avoir des enfants n'est pas du tout quelque chose de valorisé hein, au sein des familles brésiliennes. Donc, cette sœur reste hors champ. Donc, à nous de tout supposer. Elle est plus grande. Elle est déjà partie. Elle a déjà quitté, je pense que c'est ce qui paraît le plus probable, hein, quitter le foyer, etc. Mais par contre, ce qui reste extrêmement intéressant, c'est dans ce hors-champ, c'est aussi le fait qu'on n'en entende pas parler de la part du père ou de la mère. Donc ça vient nous dire quelque chose aussi sur le rapport qu'on peut avoir, y compris quand les enfants quittent le nid. Déjà, quand ils sont dans le nid, on s'en occupe pas. Et quand ils ont quitté le nid, on n'en parle même plus. Donc je pense que, en fait, c'est pour venir dire ça, en fait, encore une fois, du rapport complètement distendu, en fait, qu'il peut y avoir au sein de ces familles, dans leur rapport, en fait, à leurs propres enfants. Et toute la maternité, la générosité, la chaleur qui se dégage de Val quand elle s'occupe de Fabinho, y compris quand elle s'en va, hein, parce qu'on comprend que, bon, il y a quand même quelque chose de l'ordre du déchirement. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'elle décide de franchir le cap quand lui part, en fait. C'est ce qui va marquer. C'est pas uniquement Jessica qui et tous les changements et le cheminement qu'elle a pu faire. C'est quand même très clairement, hein, et ça va très vite en termes de montage dans le film, il part, elle part. Voilà. Alors, et là aussi, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, là aussi, complexité du film, parce que, la seule raison, finalement, affective qu'elle avait de rester, c'était lui. Il part plus... Il n'y a plus cette raison affective. Et là où vous avez tout à fait raison aussi, c'est-à-dire que tout l'enthousiasme, toute la ferveur qu'elle avait à accepter en fait, ce système de domination, etc., on peut se dire aussi, elle le faisait sans remettre en cause quoi que ce soit, parce que pour elle, c'était aussi dans ce rôle d'ange gardien qu'elle avait aussi auprès de lui, tout à fait. Oui.
Ah, moi j'ai une question sur le personnage du père qui va très loin, qui l'invite à sa table,
tout
qui
va visiter
son atelier et qui finit par lui demander de l'épouser. Pourquoi être allé jusque-là avec ce personnage-là? Pourquoi la réalisatrice a vraiment choisi d'aller au bout?
Alors le perso, j'ai pas insisté parce que je me doutais, et c'est tout à fait normal. Alors le personnage du père, il est intéressant et je pense qu'il est nécessaire parce que d'un côté, c'est en fait, il montre la même figure que la mère dans toute sa perversité. La mère qui, comme je vous l'ai expliqué, qui a des gestes, qui voudrait dire que la relation, elle dépasse la relation professionnelle entre la patronne et la domestique, hein, en lui donnant des objets, en autorisant la fille à venir, etc. Et puis on voit qu'en fait, quand trop c'est trop, toute l'oppression, toute l'autorité, toute l'humiliation vient. Je dirais que le père, quelque part, c'est la même chose. C'est-à-dire, au début, on pourrait se dire, lui, quand même, il est plus ouvert, a priori, d'autant plus qu'il est plus ouvert parce qu'il se situe, il est, c'est un artiste, etc. Mais c'est, quelque part, là aussi, c'est l'intelligence de la cinéaste, c'est-à-dire, tout artiste qu'il est, tout aussi figure d'ouverture, puisque c'est lui quand même qui fait visiter la tour à Jessica, qui lui permet d'emprunter le livre, qui lui permet d'investir la chambre d'amis. On se dit, c'est bien, parce que finalement, donc complexité du personnage, mais dans le fait qu'il lui dise, je veux t'épouser, et puis il y a peut-être un hors-champ aussi, parce que ça reste, quand il s'excuse à la fin, on ne sait pas trop de quoi il s'excuse. Enfin, non, mais voilà. Je sais pas, je dis pas qu'il y a eu, mais en tout cas, il est quand même assez lourd, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on a envie de lui dire, c'est bon, t'arrêtes, quoi. Et c'est la même idée, c'est-à-dire que, aussi ouvert a priori soit-il, aussi peut-être un peu plus critique que ne peut l'être sa femme, dans ce rapport, justement, de maître-esclave, entre guillemets, de dominé-dominant, bah, finalement, c'est quand même son statut qui l'autorise gentiment. Finalement, tu vois, je t'emmène à la fac, je te prête un livre, mais parce que, en fait, c'est moi le maître quand même, c'est moi qui. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que quelque part, à mon sens, ouais, il incarne comme la mère, mais différemment, puisque je vous ai dit en introduction, elle questionne aussi ses rapports de classe, mais aussi liés au genre aussi. Et quelque part, en fait, il exerce son pouvoir de domination en draguant, enfin moi c'est comme ça que je le vois, en draguant la fille. Enfin, c'est une autre manière pour moi d'exercer, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que voilà, elle s'attaque à des figures différentes. Enfin, je, voilà, je sais. Voilà, exactement. Il lui, puis voyez, il lui dit l'air de rien, genre je m'en fous de l'argent, mais il lui place bien quand même. C'est, en fait, l'argent, c'est à moi qu'il est. Donc voilà, et, mais c'est pour ça que c'est très très subtil, parce qu'elle y va pas, voilà. Elle aurait pu le construire de manière plus grossière, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Mais en fait, il est dans un rapport de domination avec elle, très clairement. Très clairement. Aussi.
C'est pour ça que le patriarcat, quand même un type complètement effacé, complètement dominé par sa femme, qui, à un moment donné, voit une gamine qui est dans un domaine artistique, quelqu'un qui, visiblement, intellectuellement, pourrait partager quelque chose avec lui. Il y a une tentative de rapprochement qui est à la fois lourde et pathétique, puisqu'on sent bien que ça serait c'est très facile pour Jessica de le repousser.
Et, enfin, c'est très facile. Si Jessica était comme sa mère, je ne suis pas sûre que ça aurait été très facile.
C'est une nouvelle indienne. Et lui, il s'excuse de façon assez piteuse.
Ah oui, oui.
C'est la tristesse de sa vie affective aussi.
Alors, oui.
Parce qu'il y a quand même, quand il dit qu'il a de l'argent, il dit comment dire, tout le monde danse sur ma musique, mais c'est ma musique. On a vraiment l'impression qu'il fait référence au fait qu'il a hérité, c'est un héritier. Il a de l'argent, mais en fait, tout le monde en profite. Enfin, je crois que une des dernières fois on le voit, il est allongé dans son lit, il n'arrive pas à se lever. Oui.
Alors je vous dirais, après c'est totalement personnel, pour une fois qu'on voit que c'est l'homme qui est un peu... bon, c'est pas mal aussi. Non mais voyez ce que je veux dire, enfin, je vais pas m'apitoyer sur lui non plus, quoi, personnellement. Mais après c'est personnel.
Je pense que c'est parce qu'on est dans la maison qu'il peut y avoir une aversion.
Oui. Oui, un petit peu. Oui. Non, mais c'est ça. Mais les élèves vous poseront sûrement la question, parce que c'est un personnage trouble. Mais là, quand je vous disais que c'est un film complexe, c'est ça. C'est-à-dire que il y a aucun personnage qui n'est lisse. Mais y compris Val, y compris Jessica. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, il y a quelque chose de trouble. Voilà. Mais pour autant, je pense pas que la cinéaste cherche quand même à susciter notre désarroi total par rapport à ce personnage, quoi. Enfin, je n'ai pas l'impression non plus.
C'est par rapport à la famille en entier, au final.
Oui.
Ils vivent dans l'opulence, mais...
Ah, ils n'ont qu'un rapport, bien sûr. Ah oui, c'est clair. Bah, pas de vie de couple, pas de vie, pas de relation réelle, mère, père, fils, bien sûr.
Je rejoins ce qui disait sur le personnage,
parce que je pense
qu'on peut l'envoyer. Et en fait, avant qu'il se l'arrivée de Jessica et le moment où il se dévoile, même émotionnellement, en tant que spectateur, il y a un inconfort.
Oui, tout à fait.
Une invisibilité de ce qu'on ressent.
Ouais.
Et ça, c'est dû au passage du père, qui justement est un peu à rebours, un peu différent de la mère, qui est vraiment quelqu'un de domination très franche.
Oui.
Le père, il est. C'est intéressant d'avoir un personnage.
Tout à fait.
De passer d'une ère à une...
C'est pour ça que c'est intéressant, moi, je trouve, de confronter des élèves à un film qui pose ces questions de cette façon-là, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de démonstratif, d'immédiatement lisible. Et de ce fait-là, enfin, je trouve voilà, vachement intéressant qu'il soit dans le dispositif, parce que voilà, des films sur une réalité brésilienne aujourd'hui auraient pu vite basculer dans quelque chose de plus stéréotypé, caricatural. Voilà. Oui.
Par rapport à l'espace de la maison, il y a la présence du chien aussi qui est en maison, on a l'impression qu'il est au même étage que Val.
Oui, et bien.
Parce que quand on voit l'endroit où il dort.
Tout à fait. Ah mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire le plan où on voit qu'elle a juste une petite cour qui ressemble à rien, et on voit, vous avez vu aussi, parce que j'ai oublié d'en parler, merci de me le rappeler, quand elle ouvre ses fenêtres, vous avez vu qu'elle donne sur un mur, la vue qu'elle a, c'est sur un mur. Hein. Et il y a ce plan en plongée à un moment donné, hein, voilà, pour nous montrer un petit peu justement et renforcer cette impression d'exiguïté, et on comprend que le chien... Hein, ne partage pas, parce que c'est un animal, hein, et que son lieu à lui pour dormir, c'est la toute petite cour de Val. Tout à fait. Oui, j'ai oublié d'en parler, mais absolument.
Il y a aussi un plan sur l'escalier.
Oui. Oui, qui revient, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui revient à plusieurs reprises. Donc cet escalier pour bien comprendre qu'elle est à l'étage inférieur avec... Et toujours plan très fixe, assez sombre, et toutes ces portes alignées les unes derrière les autres, qui restent fermées, en fait, qui restent fermées. Et où est possible, justement, par rapport, je ne sais plus qui a dit que la chambre du père est en face de la chambre d'amis, effectivement, hein, qui laisse un hors-champ possible aussi de ce qui peut se passer, parce qu'ils font bonne figure de gens bien, etc. Mais les portes, là aussi, ça induit aussi, les portes restent fermées, parce que fermé sous-entendu à ceux qui n'appartiennent pas au même monde, mais fermé parce que voilà, tout est possible une fois que la porte est fermée aussi, hein, quelque part. Tout à fait.
of puree.